Auteur d'un grand nombre de livres sur la Chine, son dernier ouvrage « La souplesse du dragon, les fondamentaux de la culture chinoise » paraîtra chez Albin Michel début février 2014. Cyril Javary, bonjour.
Bonjour.
Alors, Étienne l'a dit à propos de Confucius, « moins saint que Louis IX qui perd sa croisade et moins retors que Louis XI qui gagne la Bourgogne, il y a du Socrate en lui et du Montaigne, en moins dialecticien que le premier et en moins psychologue que le second. » Cyril Javary, quel est votre avis sur la question ?
On ne peut rien dire de mieux que ce qu'a dit Étienne, et ça définit parfaitement à la fois la particularité de Confucius et son étrangeté, qui fait qu'il n'y a personne en Occident qui lui soit vraiment comparable, et d'ailleurs en Chine non plus.
Alors un petit retour en arrière, il y a 25 siècles, histoire de poser quelques principes de base de la philosophie de Confucius.
Alors, Confucius vivait à une époque qui en fait ressemble beaucoup à la nôtre. C'est peut-être pour ça que sa parole sonne si juste. Il vivait vers 500 avant Jésus-Christ, et à cette époque-là, des progrès technologiques inédits étaient en train de bousculer l'ordre social. À notre époque, vous voyez ce que c'est, Internet, etc. Bon, la seule chose dont on est sûr, c'est que nos enfants ne vivront pas dans le même monde que nos parents. À l'époque de Confucius, c'est la diffusion du fer. Le fer, qui n'arrivera en Occident qu'au XIIe siècle, se répand en Chine au VIe siècle. Et avec le fer, on fait des charrues puissantes et des épées mordantes. Et donc, ça change complètement. D'abord, la production est décuplée. Quand la production est décuplée, la population augmente énormément. Quand la population augmente, les armées changent. Et donc l'art de la guerre, qui avant était une sorte de guerre en dentelle, qui se faisait entre nobles du haut de leur char, un petit escarmouche, un petit poème, etc., brusquement ça devient Verdun. C'est-à-dire, celui qui aligne le plus de fantassins armés d'une épée en fer, et tue le plus de soldats en face, gagne sur les autres, et ça aboutira à l'armée spectrale qui garde le tombeau de Qin Shi Huangdi de 3 siècles plus tard, quand il aura conquis tous les pays chinois un par un. Donc Confucius comprend que le monde qui était réglé par un système féodal est en train de changer. Et en plus que les états féodaux s'agrandissant, on ne peut plus les gérer, la noblesse n'est plus suffisante pour les gérer, et qu'il faut une classe de gens qui se dévouent au bien public. Et c'est ainsi qu'il va faire un acte purement révolutionnaire. À l'âge de 27 ans, il abandonne son métier de fonctionnaire de la principauté de Lu. Et, comme on dirait aujourd'hui, il se jette à la mer. En fait, il ouvre la première école privée du monde. Il disait « J'offre mon enseignement à quiconque ne me donnerait en échange que quelques lamelles de viande séchée. » En offrant son enseignement contre salaire, il sape l'édifice féodal, car jusqu'alors, seuls les fils de nobles avaient droit à l'éducation. Lui, il dit que ce qui lui importe, ce n'est pas la noblesse de sang, mais la noblesse de cœur. Et la différence entre les deux, c'est que la noblesse de sang se reçoit. La noblesse de cœur s'acquiert. Elle s'acquiert comment ? Par l'étude. Et ce faisant, il va passer le reste de sa vie à former des gens qui n'auront que le bien public d'entre en tête et en cœur. Et en cela, il va inventer une classe sociale qui n'a existé qu'en Chine, la classe des lettrés, qui va gouverner le pays pendant 2000 ans.
Alors, est-ce qu'on peut dire que c'était à la fois un pionnier, un visionnaire et un utopiste ?
Ça convient assez bien. Et un pionnier parce qu'il invente quelque chose qui n'a jamais existé. Un visionnaire parce que à l'époque, ça ne va pas marcher. D'ailleurs, il va errer en Chine pendant 12 ans à la recherche d'un prince qui voudrait bien lui permettre d'appliquer ses idées en vraie grandeur. Et ça ne va pas marcher. Ces idées ne seront mises en pratique qu'à partir des Han, 300 ans, 400 ans après sa mort. Mais un utopiste aussi, parce que, et c'est encore Étienne qui le souligne, finalement, c'est vrai que certaines de ses propositions semblent un peu irréelles, par exemple. Il a dit à un moment « La vertu n'est point solitaire, on s'assemble autour d'elle. » Mais après tout, c'est toujours les utopies qui font avancer le monde. Et aime ton prochain comme toi-même, hein, c'est pas encore bien réalisé.
Certes. Alors on saute quelques siècles à grandes enjambées et on arrive au 4 mai 1919, qui signe, croit-on, la fin de Confucius.
Eh bien, pas du tout. Parce que présenter les choses ainsi, c'est confondre trois choses. Confondre Confucius, un Confucéen et le confucianisme. Confucius, c'est quelqu'un dont on connaît très bien la pensée parce que ses disciples ont passé 30 ans à rassembler tout ce qu'il avait dit et à rencontrer toutes les personnes qu'il avait rencontrées de façon à faire vérifier et revérifier tout ce qu'il a dit. Et les entretiens de Confucius, c'est quasiment comme s'il y avait un magnétophone allumé sur la table. On l'entend, Confucius, et même quelquefois on l'entend craquer. Enfin, c'est très très émouvant, c'est très vivant. Un Confucéen, c'est quelqu'un comme vous, comme moi, qui a décidé de mettre les idées de Confucius en pratique dans sa vie personnelle. Et le plus célèbre des Confucéens actuels, personne ne connaît son nom, heureusement pour lui, c'est lui qui a appliqué cette maxime de Confucius qui dit qu'il faut toujours s'opposer à la brutalité, d'où qu'elle vienne, surtout quand elle vient du pouvoir. Et vous l'avez reconnu, c'est ce jeune homme en chemise blanche, avenue Chang'an, le 6 juin 1989. Quant au confucianisme, c'est quelque chose qui aurait révolté Confucius. Car le confucianisme, c'est ce que des dynasties réactionnaires ont réalisé en prenant dans le message de Confucius uniquement ce qui convient aux gouvernants, aux dirigeants. Par exemple, Confucius a très bien posé les rapports entre sujet et souverain. Le sujet doit obéir au souverain, mais le souverain doit protéger le sujet. Et s'il n'y a pas cette réciprocité, la relation est injuste. Or, justement, des dynasties tout à fait réactionnaires ont oublié les devoirs des gouvernants et insisté sur ceux des gouvernés. Et cela est allé de pire en pire au cours de l'histoire, en particulier durant la dynastie Qing, c'est-à-dire les Mandchous, qui ont conquis la Chine en 1644 et qui ont choisi ce qu'il y avait de plus réactionnaire dans les commentaires déjà réactionnaires des néo-confucéens de l'époque des Song pour asseoir leur domination, leur occupation. Et c'est pourquoi le 4 mai 1919, vous savez pourquoi les gens étaient dans la rue, à cause de cette clause du traité de Versailles, où les négociateurs du traité de Versailles ont décidé de rendre les villes chinoises conquises par les Japonais, de les laisser aux Japonais. Ils n'auraient même pas venu à l'idée qu'on aurait peut-être pu les rendre à leurs légitimes propriétaires. Et donc, les gens, l'intelligentsia est descendue, place Tiananmen déjà, pour protester en criant « Abat la boutique de Confucius ». Pas « Abat Confucius ».« Abat tous ceux qui pervertissent le message de Confucius pour en faire cet instrument de domination et ainsi pervertir le message de liberté et de dignité du vieux philosophe du Shantung.
Alors donc finalement, moi qui pensais que le confucianisme dans les années 20 n'était plus à l'ordre du jour pour construire la nouvelle société chinoise, en tout cas Chiang Kai-shek le dément puisqu'il porte un intérêt à Confucius, lui.
Il porte un grand intérêt au confucianisme. Et il reprend donc cette tradition d'utiliser ce qui lui permettait d'asseoir, évidemment, d'utiliser la notoriété du vieux sage et sa présence dans l'esprit de tous les Chinois pour asseoir sa propre politique réactionnaire après avoir tourné le dos à l'alliance avec les communistes lors de l'affaire de Shanghai racontée par Malraux dans La Condition humaine.
Quels étaient les fondements du mouvement de la vie nouvelle qu'il a fondé en 1934 ?
C'était, une sorte de catéchisme bonasse, disant qu'il faut aimer son pays, qu'il faut aimer son gouvernement, etc., etc. Je caricature à peine, mais c'est à peu près ça. C'était une sorte de version chinoise de bêtification anti-universaliste contre les mouvements prolétariens qui commençaient à exister à la suite de la révolution russe en 1917 et de la création du Parti communiste chinois en Chine en 1921.
Cela dit, ça a bien marché, il a emmené des gens derrière lui.
Chiang Kai-shek ? Oui, parce que il jouait sur le fait que Confucius, bien que très ancien, est extrêmement compatible avec certains grands principes de la modernité. Par exemple, l'idée que d'ouvrir une école pour n'importe qui, c'est-à-dire que n'importe qui peut s'éduquer, c'est le principe de l'ascension sociale. Et c'est ce principe, le principe des examens. Alors ça a donné dans la Chine ancienne le principe des examens impériaux qui était ouvert à tous. Bien sûr, c'était plus facile quand on était fils de lettré que quand on était fils de paysan, mais quand on repérait dans un village un gamin qui avait l'air plus éveillé, les paysans se cotisaient pour lui payer des études. Et si après il réussissait les examens impériaux et qu'il était nommé préfet de la région, il n'oubliait pas à qui il devait ça. C'est ce qu'on appelle un investissement à long terme. Mais le résultat de ce système confucéen des examens impériaux, c'est que l'État avait toujours à sa disposition la totalité des meilleurs cerveaux du moment. Ce qui explique pourquoi la Chine était toujours plus en avance sur le reste du monde, en particulier sur l'Occident jusqu'à la Renaissance, parce que dans le système féodal occidental, quand vous étiez manant, et vous ne pouviez pas quitter votre classe à moins de faire un détour par les ordres. Et donc on se privait de la plus grande partie des cerveaux de la population, alors que la Chine les avait à sa disposition, ce qui explique son avancée culturelle, économique, technologique, jusqu'à la Renaissance, qui a brisé ce système féodal en Europe. Maintenant, donc d'une part, cette idée que de self-made man, en quelque sorte, que chacun peut réussir, qui est un des principes du capitalisme actuel, elle est dans dans les principes confucéens. Et surtout, cette idée que l'éducation, c'est-à-dire l'étude, est le moteur le plus important pour le développement personnel. C'est une idée qui est parfaitement utile actuellement. Et le résultat, l'application la plus moderne de cela, c'est Singapour, une ville-État, qui n'a aucune ressource en industrie primaire ou secondaire, qui ne vit que de sa matière grise, et qui réussit pas mal. Après tout, elle s'achète des gros avions, n'est-ce pas ?
C'est vrai, pourquoi pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur l'adoption par Chiang Kai-shek du petit Kong de Cheng, qui est le 77e descendant en ligne directe de Confucius, et que vous avez d'ailleurs vous-même rencontré ?
Alors ça, c'est assez extraordinaire. Imaginez que vous avez devant vous quelqu'un qui arrive, qui vous tend la main et qui vous dit « Bonjour, je m'appelle Socrates et je vais vous parler de mon grand-père. » Parce que Confucius, déjà, il était de toute petite noblesse, mais de noblesse quand même. Et donc, il connaissait le nom de ses ancêtres jusqu'à 10 générations en arrière, c'est-à-dire jusqu'à la dynastie des Shang vers 1100 avant Jésus-Christ. Et ensuite, comme il a beaucoup insisté sur les relations filiales, on a soigneusement noté tous ses ancêtres. Et donc, Kong Te Cheng, ils s'appellent tous Kong, c'est leur nom de famille. Et Kong Te Cheng est le 78e descendant en ligne directe par primogéniture mâle de Confucius. Il est donc effectivement, pour asseoir sa théorie de la Chine nouvelle, Chiang Kai-shek a pris sous son aile le petit Kong Te Cheng, parce que Kong Te Cheng a eu le malheur que son père soit décédé avant sa naissance. Donc il a été intronisé en charge du culte de son illustre ancêtre dès l'âge de 8 ans et pris sous sa coupe par Chiang Kai-shek pour donner un peu de lustre à sa vie nouvelle, ce qui fait que lors de la défaite dans la guerre civile, quand Chiang Kai-shek est parti avec son administration et son armée à Taïwan, il a emporté avec lui Kong Te Cheng, qui a vécu à Taïwan jusqu'à sa mort, à 88 ans, en 2008.
Effectivement, on aurait tous pu le rencontrer. Mais alors, quand Mao arrive au pouvoir, il fait quelque chose de tout à fait étonnant. Il nomme Kong de Mao, donc la sœur aînée du petit Kong, dont on vient de parler, en charge des cérémonies rituelles en souvenir de son illustre ancêtre. Bon, on a l'impression qu'on marche sur la tête, là.
Non, pas du tout. On a l'impression d'un très joli coup dialectique, car effectivement, le problème de Mao, c'est que en tant que Chinois, il ne peut pas interrompre les cérémonies d'anniversaire annuel de Confucius. Mais en tant que révolutionnaire, il ne peut pas les continuer, puisque le descendant officiel est parti avec les rares réactionnaires du Kuomintang à Taïwan. Et donc, il résout le problème avec une grande élégance. Effectivement, il nomme Madame Kong Te Mao, la sœur aînée de Kong Te Cheng, ce qui fait coup double, car d'une part, il n'interrompt pas cette lignée extraordinaire, Et deuxièmement, il nomme une femme en charge du culte des ancêtres, ce qui est totalement révolutionnaire. Et donc, coup double des deux côtés. Madame Kong Tmao est toujours vivante. Et donc va se poser très, mais elle est un peu âgée maintenant, elle approche des 90 ans, mais donc va se poser à un moment de sa mort un grave problème politico-généalogico-sinologique. Parce que, bien évidemment, qui va être le 80e descendant en ligne directe en charge des cérémonies d'hommage à l'illustre ancêtre ? Pékin ne peut pas reconnaître le petit-fils de Kong Techeng. Son fils est mort de son vivant. Et Taïwan ne peut pas reconnaître le fils de la fille. Donc le problème est extrêmement compliqué, pire que celui de Taïwan.
Bon, on verra ça quand le temps viendra.
Il faut scruter la notice nécrologique de la famille Kong.
Alors, pourtant, Mao a interdit le confucianisme, qui était une religion féodale. Et là, on retrouve toute cette opposition entre Confucius et confucianisme.
La contradiction, c'est que, effectivement, le confucianisme était associé à toutes les vieilleries féodales qu'il fallait éradiquer pour avancer dans la société nouvelle, mais en même temps, il n'y avait qu'au pays de Confucius que l'on pouvait imaginer qu'un livre de petite taille et de couleur rouge pouvait changer le cœur de l'homme. Et d'ailleurs, lors des affiches de la campagne Pilin Pikong, on verra des ouvriers et des soldats unis pour lutter contre Confucius, mais ils n'ont pas à la main une arme, ou plutôt si, une arme encore plus efficace en Chine, un pinceau.
Oui. Alors pour quelle raison, en 1973, au moment de la révolution culturelle, la critique de Confucius redevient-elle à la mode, et celui-ci désigné comme un suppôt du capitalisme? Et donc on revoit l'histoire de Lin Piao, justement.
C'est à cause de Lin Piao. Au cours de la première phase de la révolution culturelle, c'est-à-dire les années 66-69, Mao Tse-tung lance la révolution culturelle parce qu'il a été démis de ses fonctions, il a été démis de sa fonction de président de la République populaire et mis en minorité au comité central du Parti communiste chinois pour l'échec du grand bond en avant. Pour reconquérir le pouvoir, il n'a qu'une seule solution, il n'a que deux appuis, l'armée de son fidèle Lin Piao, qui a déjà inventé le petit livre rouge, et les jeunes qui sont nés après la fondation de la République populaire et qui n'ont eu que l'éducation socialiste. Et donc il va lancer, avec l'appui de l'armée, des hordes d'adolescents prépubères à l'assaut du Parti communiste chinois, qui l'a viré du pouvoir. Une fois celui-ci rétabli, son propre pouvoir rétabli, eh bien, Lin Piao va avoir une position très importante. Il va être nommé le plus proche compagnon de combat de Mao Tse-tung. On le verra tout le temps, d'ailleurs toujours un petit livre rouge à la main, dans l'ombre de Mao Tse-tung. Et finalement, Lin Piao va trouver que c'est un peu long et qu'il a vraiment envie d'être calife à la place du calife. Et donc, il va finir par fomenter un complot contre Mao Tse-tung. Il avait imaginé de tirer au bazooka sur son train spécial de façon à accélérer le rendez-vous entre Mao Tse-tung et Karl Marx, comme on disait à l'époque. Mais Mao Tse-tung a parfaitement vu le problème, cerné Lin Piao, et au moment où Lin Piao va être arrêté, il s'enfuit dans un avion sans avoir le temps de faire le plein, et l'avion s'écrase en Mongolie, ce qui montre bien que c'était un renégat, car quand vous partez de Pékin et que vous allez vers la Mongolie, il y a au bout les révisionnistes soviétiques. Mais l'affaire était extrêmement difficile parce que la position de Lin Piao dans la propagande de la révolution culturelle était énorme. En plus, nous sommes ici à l'automne 1971 et Zhou Enlai est en train de préparer avec Kissinger la rencontre entre Nixon et Mao en février 1972. Donc, ce n'est pas le moment de créer des dissensions à l'intérieur. Donc, on tient secret la mort de Lin Piao. Et cela pendant plus d'un an. Et finalement, on annonce en juillet décès de Lin Piao. Seulement, comment expliquer au peuple que le plus proche combattant, le plus fidèle allié du président Mao, est devenu un traître à la solde des révisionnistes soviétiques. Il n'y a qu'une seule solution, on va noyer le poisson en rajoutant, en sortant du formol Confucius et en montrant qu'en quelque sorte, Lin Piao est le Confucius des temps modernes, que Confucius était en fait un fief et réactionnaire et que sous prétexte de se modérer et en revenir au rite, sa grande, les quatre caractères qui résument souvent son idée, en fait, il voulait défendre la classe des propriétaires fonciers et des compradors de l'époque et revenir au système féodal, exactement comme Lin Piao voulait en revenir au système des compradors et vendre la révolution chinoise à la solde des révisionnistes. Enfin, la logorée de cette époque est absolument extraordinaire. Et donc, on a sorti Confucius pour pouvoir essayer d'expliquer au peuple que Lin Piao était devenu un traître à la révolution. Alors, bien sûr, on a critiqué Confucius et il y a des textes absolument délirants de cette époque-là. On voyait les ouvriers des aciéries étudier Confucius après leurs 8 heures de travail, etc. Mais dans les affiches « Luttons contre la pensée réactionnaire de Confucius », les affiches de cette époque-là, on voit effectivement des paysans, des ouvriers et des soldats qui luttent le pinceau à la main. C'est-à-dire qu'en fait, on est en pleine idéographie chinoise, on est en pleine... il n'y a qu'en Chine que ça pouvait arriver.
C'est sûr que le pinceau à la place de la faucille et le marteau, ça change. Que dire du retour de Confucius auquel on assiste aujourd'hui dans la société chinoise ?
Alors, le problème des dirigeants actuels depuis la mort de Deng Xiaoping, c'est que l'abandon du maoïsme a créé un vide idéologique terrifiant. Et que donc, ce vide idéologique, il ne peut être comblé, naturellement, il ne peut être comblé que par deux choses. Un matérialisme gigantesque. Et c'est vrai que quand on en a été tellement privé pendant plus de 30 ans de maoïsme, après plus de 30 ans de guerre civile et d'occupation étrangère, avoir de l'argent, avoir du bien-être, c'est compréhensible. Mais aussi, pour éviter que ce vide soit comblé par un nationalisme jaune pouvant virer au brun, le gouvernement a ressorti, comme chaque fois qu'il y a des problèmes, a ressorti Confucius. Et effectivement, il a opéré un certain retour en grâce. Et donc, on a vu des premiers ministres, par exemple, M. Li Peng est allé assister au 2450e anniversaire de la naissance de Confucius en septembre. Confucius est né le 21 septembre, il était du cycle de la balance, ça lui va très bien, à Chufo, sa ville natale, dans le Shantong. Et on a redoré les temples et on a fait des colloques sur la pensée de Confucius, on a réédité Confucius. Et donc, il est revenu assez à la mode parce qu'il donnait une image apaisée de la Chine, valable aussi vis-à-vis de l'extérieur. Et il permettait aux Chinois de passer d'un petit livre à un autre et de retrouver certaines choses qui leur manquaient. Car Confucius, finalement, s'est toujours intéressé à un seul type de problème. Comment vivre ensemble dans une société à forte population ? Et c'est pour ça que Confucius n'a jamais parlé ni de ce qui est au-dessus, ni de ce qui est en dessous, ni des dieux, ni des diables. Sa pensée est toujours horizontale. À propos des dieux et des diables, il dit « Jing shen gui er yuan zi ». Respectez les dieux et les diables et s'en tenir éloignés. Ou les tenir éloignés, les deux sens sont possibles. Respectez pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui y croient. Et qu'on n'a jamais le droit de se moquer de la croyance d'un être humain. Mais s'en tenir éloigné parce que ce sont des enfantillages.
Est-ce que vous pouvez nous raconter le mystère de la statue de Confucius de 8 mètres de haut qui a été érigée place Tiananmen à quelques mètres du mausolée de Mao et qui est apparue un beau matin et qui a disparu ?
Alors ça s'est passé au cours de l'hiver 2011. Et effectivement, c'est une histoire tout à fait curieuse et qui démontre bien une expression que l'on employait beaucoup à l'époque maoïste, de la lutte entre deux lignes à l'intérieur des hautes sphères du gouvernement chinois. Hiver 2011-2012, le successeur de Hu Jintao est déjà désigné, M. Xi Jinping, qui va le remplacer. Il sera officiellement nommé au cours du 18e congrès cet automne. Mais si le numéro 1 est désigné, les numéros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ne le sont pas encore. Et donc là, Pékin commence à ressembler à Florence, c'est-à-dire que les dagues sont sous la table. Et que donc, il y a une ligne d'ouverture dont l'actuel Premier ministre, M. Wen Jiabao, est un des héros. Wen Jiabao qui carrément critique son propre gouvernement et dit qu'il faut une ouverture politique pour que la situation perdure. Et puis il y a toujours des nostalgiques il y a encore du côté du Politburo quelques dinosaures stalinoïdes qui continuent à avoir une influence politique assez importante. Donc il est vraisemblable que la commande de cette statue a été faite par, on va dire, l'aile ouverture. C'est quand même pas un petit morceau, vous avez dit sa taille, son poids je crois c'est 19 tonnes de bronze. Alors elle n'a pas été placée directement, place Tiananmen, elle a été placée le 21 janvier je crois, devant l'entrée nord du musée d'histoire. Donc en fait elle est sur un trottoir de l'avenue Chang'an. Mais c'est vrai que Confucius en bronze n'a qu'à tourner la tête et il voit le mausolée de Mao. Donc effectivement, la proximité est un peu difficile. Et alors en face du musée d'histoire, ça collait à peu près. Mais quand même, ça a paru insupportable aux anciens maoïstes. Et donc effectivement, 3 mois après, la statue a disparu. Quand on interrogeait le sculpteur, il ne savait pas où elle était. Quand on interrogeait le gardien du musée d'histoire, il ne savait pas où elle était. Or, quand même, 14 ou 19 tonnes de bronze, ça ne s'enlève pas avec une camionnette. Et puis finalement, il semble, Wotin Shuole, j'ai entendu dire, car je n'ai pas pu le vérifier de mes yeux, que la statue a réintégré le musée d'histoire, mais à l'intérieur du musée d'histoire. Alors là, il n'y a pas de problème, Confucius fait partie de l'histoire de Chine, et le musée d'histoire se trouve sur la place Tiananmen, mais pas Confucius. Et donc, c'est sans doute un arrangement comme seuls les Chinois arrivent à en faire pour trouver une solution harmonieuse aux contradictions à l'intérieur du peuple.
J'aime bien, vous avez quand même cité le mot harmonieux, ça c'était important.
Ce mot harmonieux que l'on entend beaucoup citer dans les discours actuels, par exemple M. Hu Jintao l'emploie énormément, n'est pas une parole creuse. Et c'est effectivement un leitmotiv qui vient de l'époque de Confucius et qui nous semble qu'on a du mal à comprendre parce qu'on oublie qu'il y a deux mots chinois pour dire harmonie. En chinois et non pas un comme chez nous, il y a l'harmonie du contraire, du semblable et l'harmonie du différent. Alors les deux se prononcent re, ce qui ne rend pas les choses faciles, mais ils ne s'écrivent pas du tout de la même façon. Pour vous donner une idée, c'est un peu une comparaison, c'est un peu le chant choral et le chant canon. Le chant choral, c'est l'harmonie du semblable. Le chant canon, c'est l'harmonie du différent. Mais les deux sont harmonieux, mais ils le sont différemment. Et le Deng Xiaoping, par exemple, avait tout à fait bien prévu une critique que l'on fait actuellement au gouvernement, à la direction qu'a pris le gouvernement chinois, qui est que les écarts de revenus se sont énormément amplifiés depuis 30 ans. C'est absolument vrai. À l'époque maoïste, entre les plus riches et les moins riches, l'écart était de 5. C'est assez normal. Il n'y avait rien, mais tout le monde en avait sa part. Maintenant, les mêmes écarts vont de 1 à 100. Et certains disent même 200, peut-être 400. C'est exact aussi. Mais deux choses sont à rajouter pour corriger cette idée. La première, c'est que celui qui gagne 1 maintenant gagne 5 fois plus que son père qui gagnait 1 il y a 30 ans. Et donc, il est content de son sort. Et quant à cet écart de revenus, Deng Xiaoping l'avait prévu. Il avait bien dit, pour que tout le monde s'enrichisse, il faut qu'il y en ait qui s'enrichissent avant les autres. Et que donc, cette harmonie dont il est question, et ça, Confucius l'avait également prévu, c'est une harmonie du différent. C'est-à-dire qu'il y a des, comme dans toute société, il y a des gens, il y a des grands et des petits, il y a des pauvres et des riches, il y a des beaux et des laids. Ce qu'il faut, c'est que les riches ne soient pas trop riches, les pauvres ne soient pas trop pauvres. Et c'est pour ça qu'un jour, Confucius se dit... Un de ses élèves avait été nommé à un poste et il avait demandé une augmentation de son salaire à peine arrivé à son poste. Aucune comparaison avec des faits actuels ne serait une pure coïncidence. Et Confucius, en entendant ça, a dit « Je croyais qu'un junzi, un être accompli, n'essayait pas d'ajouter de la richesse aux riches, mais de diminuer la pauvreté des pauvres. »
Nous écoutions Cyril Javary à propos de Confucius. Son dernier ouvrage, « La souplesse du dragon, les fondamentaux de la culture chinoise » paraîtra chez Albin Michel début février 2014.